Alors bonjour. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de la question des régimes de savoir. Alors, commençons par la question, qu'est-ce qu'on entend par régime de savoir, n'est-ce pas ? Vous vous en doutez, ce sont d'abord des normes qui sont à la fois sociales et historiques, d'acquisition, d'attribution aussi, de transmission, de mobilisation, n'est-ce pas, de mémorisation, mais aussi de droit, d'autorité, tout cela associé aux formes sous lesquelles on pense les savoirs. Et bien entendu, cela est très évidemment sous-tendu et informé par des conceptions qui sont sujettes à variation et qui, quoique beaucoup plus fondamentales, sont cependant plus subtiles et difficiles à cerner. Quand des choses comme, enfin des questions du genre, qu'entend-on par savoir ? S'agit-il d'un champ unifié ou bien est-il pensé sous des catégories distinctes entre elles ? Quelles seraient alors les différences internes ? Et par ailleurs, sous quelle forme est conçu le rapport entre, disons, le savant et son savoir ? Toutes ces questions, pour s'y retrouver, je pense qu'il est sage de suivre une méthode ancienne et consacrée qui a fait ses preuves et se demander ce que nous dit à ce sujet, commencer par se demander ce que nous dit à ce sujet le vocabulaire. Et je vous en donnerai un exemple qui vient de chez nous. De nos jours, notre vocabulaire distingue très fortement entre invention d'une part et découverte de l'autre. Cette distinction est maintenant essentielle à tel point qu'un brevet, par exemple, ne peut être accordé qu'à une invention, mais certainement pas à une découverte. L'invention supposant une activité créatrice que la découverte ne posséderait pas. Mais pourtant, et là vous voyez l'évolution du vocabulaire, pourtant pendant très longtemps, invention et découverte furent tenues pour synonymes. D'ailleurs, inventio en latin se traduit par trouvaille ou découverte. Donc, il y a un exemple qui est très parlant, c'est celui de l'invention de la Sainte Croix. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler. L'invention de la vraie croix, ou de la Sainte Croix, en général c'est la vraie croix, cela reste jusqu'à ce jour le nom de l'épisode qui raconte que Sainte Hélène, la mère de l'empereur Constantin, au IVe siècle, on prétend que c'était en 326 très exactement de notre ère, trouva et identifia à Jérusalem, où elle était allée faire un voyage, la croix sur laquelle le Christ aurait été crucifié. Elle non seulement trouva la croix, en fait elle en trouva trois, bien entendu. Et il fallut disons, départager les croix qui appartenaient aux deux larrons, le bon et le mauvais, et celui qui revenait au Christ lui-même. Et toute une hagiographie parle des tests auxquels on soumit ces croix, jusqu'à ce que l'une d'elles, par un miracle, atteste qu'elle était la bonne. Quoi qu'il en soit, cette appellation, n'est-ce pas, de l'invention de la Sainte Croix est perpétuée dans une longue tradition iconographique, dans laquelle d'ailleurs se détache la fameuse fresque de Piero della Francesca à Arezzo. Et d'ailleurs, on continue toujours de fêter le 3 mai l'invention, c'est bien le nom qu'on utilise, l'invention de la vraie croix. Donc, inventer et trouver étaient parfaitement synonymes, n'est-ce pas ? Mais plus tard, l'invention a été distinguée de la découverte par cette composante créatrice, en bien et en mal d'ailleurs, puisqu'elle a gardé aussi un sens de fabulation, sinon de mensonge. Mais la création donc a pris une importance croissante et au début du XVIIe siècle, en Angleterre surtout, elle a pris la génération pour modèle et le rapport de l'auteur, disons, à sa création, qui était d'abord littéraire mais ensuite s'est étendu à toute autre invention. Donc ce rapport s'est moulé sur le rapport de paternité. Et c'est ce sens, n'est-ce pas, qui justifie les droits que l'auteur garde sur son œuvre. C'est là un point intéressant, l'idée des droits de propriété intellectuelle n'est née qu'au début du XVIIe siècle, sous des formes d'ailleurs très différentes dans deux pays, d'une part en Angleterre, et d'autre part en Allemagne. En Allemagne, c'était surtout l'idée de droit moral qui était mise en exergue, c'est-à-dire qu'on ne pouvait déformer l'œuvre, n'est-ce pas, adultérer, corrompre, si vous voulez, l'œuvre d'un auteur. En Angleterre, en revanche, la dispute opposait les typographes qui étaient aussi éditeurs à l'époque. Typographes et éditeurs se confondaient, et la piraterie des Écossais, c'est-à-dire que des imprimeurs écossais faisaient imprimer des œuvres qui, soi-disant, étaient attribuées uniquement aux imprimeurs, si vous voulez, anglais. Et pour se défendre de cela, on inventa justement, on revendiqua, ce sont les typographes qui ont revendiqué cela, l'idée d'une propriété de l'auteur sur son œuvre, propriété qui ne servait qu'à pouvoir vendre ses droits, n'est-ce pas ? C'était, l'idée de propriété était immédiatement appariée à celle de mise sur le marché. Donc les droits de propriété intellectuelle qui se fondent à ce moment-là en Angleterre, n'est-ce pas, étaient des droits qui d'ailleurs on prétendait à l'époque qu'ils soient éternels, tout simplement. Que par exemple Milton avait vendu pour 5 shillings son manuscrit, eh bien cela serait suffisant pour que à perpétuité son éditeur, n'est-ce pas, publie son éditeur et ses successeurs, bien entendu, publient en exclusivité ce livre. La Cour départagea, n'est-ce pas, ces prétentions excessives et instaura l'idée de droit de copyright, n'est-ce pas, de droit d'auteur, pour un temps déterminé. Donc c'était l'idée de restreindre dans le temps ces droits. Mais vous voyez que c'est ça là, qui au fond est intéressant, c'est que il se crée donc à une certaine époque, au XVIIe siècle, l'idée d'un lien à la fois moral et propriétaire de l'auteur sur son œuvre. Et comme je vous l'ai dit, cette idée du créateur, n'est-ce pas, dépasse largement la création littéraire et s'applique ensuite à toute création. Mais cette façon de penser est intéressante en elle-même parce qu'elle n'est pas sans rappeler la conception que Giambattista Vico, opposait à Descartes qui était sa bête noire, n'est-ce pas ? Ce qu'il disait, ce que Vico disait, c'est qu'on ne connaît parfaitement ce que l'on a fait. N'est-ce pas ? Et là, on rejoint, bien entendu, un des thèmes sur lesquels j'ai déjà insisté, n'est-ce pas ? Et Vico dira dans son livre qui s'appelle « De la très ancienne philosophie des peuples italiques », où d'ailleurs il inaugure une méthode philologique très intéressante. Il se prend à discourir sur le vocabulaire des Romains, n'est-ce pas, pour soutenir cette thèse et montrer justement cette thèse qu'on ne connaît que ce qu'on a fait, n'est-ce pas. Et il écrira en 1710, donc, et là je le cite, « Le critère et la règle du vrai sont l'avoir fait lui-même. » Donc, connaissance et savoir-faire seraient donc liés de façon essentielle, et pour lui, le vrai et le fait sont équivalents. Donc, Dieu qui a fait toutes choses, dit-il, est seul capable de connaître aussi, lui aussi, toutes choses, mais nous autres qui ne connaissons, nous autres ne connaissons parfaitement que ce que nous avons fait nous-mêmes. Et quant au reste, nous pouvons bien glaner et recueillir des données, mais nous ne verrons les choses que du dehors, dans leur opacité. Vous voyez tout de suite, n'est-ce pas, sa diatribe contre Descartes, qui est là. Et je vous cite encore un petit extrait de ce livre, où il dit, pour illustrer ces points par une comparaison, c'est une comparaison très intéressante, vous verrez. Il continue, je dirais que le vrai, mais le vrai divin, est une image solide des choses, comme un modelage, tandis que le vrai humain est une image plane, comme une peinture. Donc il lui manque une dimension. Dieu l'a produit solide, puisqu'il comprend tout, et l'homme l'a produit plane, puisqu'il n'en comprend que les extrémités. C'est tout le projet de rationalité, n'est-ce pas, qu'ils mettent en question. Et alors, ce que nous créons, ce que nous inventons, c'est cela et cela seulement que nous pouvons connaître. Ainsi, et là, vous verrez, il y a quelque chose d'assez original, et il dira, les mathématiques, la géométrie, n'est-ce pas, parce qu'elles sont construites par l'homme, n'est-ce pas, la géométrie a été construite par les Grecs, si vous voulez, et en ce sens, elles peuvent faire l'objet d'une véritable science et être complètement connues pour la bonne raison que ce sont des sciences d'origine humaine. Surprise, mathématiques et géométrie sont des sciences humaines. Et non, n'est-ce pas ? Mais, en revanche, la connaissance de la physique est impossible aux hommes. Elle n'appartient qu'à Dieu, car Dieu seul a fait le monde physique. Et c'est de cette attitude que vient la célèbre thèse de Vico, qui sera plus tard reprise par Marx, qui est que l'histoire étant faite par des hommes, n'est-ce pas, elle est une science humaine, et que par conséquent, elle peut devenir un véritable objet de connaissance. Donc il existe la science de l'histoire, et c'est ce que Marx va reprendre justement très fortement chez Vico. Alors, pour en revenir à l'invention et la découverte, je vous ai dit que le droit consacre maintenant, à présent, une distinction qui, comme vous l'avez vu, est toute historique, n'est-ce pas, entre ces deux démarches d'acquisition de savoir, l'invention et la découverte. Et il est intéressant de noter que les enjeux impliqués là-dedans pourraient fort bien amener de nouveaux bouleversements, bouleversements sémantiques, puisque vous avez d'une part des mouvements sociaux qui se battent pour parer à l'adoption de droits de propriété intellectuelle sur la nature, n'est-ce pas ? En vis-à-vis de puissants groupes d'influence qui cherchent au contraire à éliminer cette différence entre découverte et invention. Cela leur permettrait, par exemple, de déposer des brevets sur des gènes identifiés dans des organismes vivants et qui, aujourd'hui, ne seraient pas considérés comme une création, mais bien comme une identification ou une découverte, si vous voulez, puisque les gènes préexistent, n'est-ce pas, à leur identification. Donc, pour l'instant, en tout cas, la découverte reste source de renommée, mais la création et source de propriété. Donc, c'est très différent. Ce n'est que récemment qu'on a commencé à regarder les savoirs autochtones sous un autre angle, c'est-à-dire l'angle de leur régime respectif. C'est sans doute l'équipe de Marilyn Strathern qui a, dans les dernières 15 années à peu près, fait des études coordonnées, qui s'ajoutent d'ailleurs, qui se sont ajoutées à des études qui existaient déjà, mais qui étaient moins, mais qui étaient plus isolées, disons, de spécialistes de la Mélanésie. En tout cas, Marilyn Strathern, que vous aurez d'ailleurs l'occasion de, si vous assistez au colloque du 14 et 15 mai, elle sera là, et de même un de ses collaborateurs et précurseurs en un sens, James Leach, qui sera aussi présent et qui vont certainement parler de ces questions. Donc, c'est cette équipe qui a vraiment posé ou fourni, si vous voulez, un dossier robuste sur la Mélanésie essentiellement et qui a réfléchi dessus. Bon, vous savez sans doute que les spécialistes de la Mélanésie et ceux de l'Amazonie se trouvent beaucoup de points en commun, ne serait-ce que l'insatisfaction qu'ils partagent au sujet de catégories anthropologiques classiques qu'ils trouvent moulées dans des ethnographies de sociétés très différentes. Donc, en Amazonie aussi, des études se multiplient sur les régimes de savoir et leurs fondements. S'ajoutent à cela, toujours en Amazonie, des recherches coordonnées sur les effets de l'instauration de droits de propriété intellectuelle et de politiques patrimonialisation, sur les effets donc de ces politiques et de ces droits de propriété intellectuelle sur les systèmes de savoir autochtones. C'est une recherche, n'est-ce pas, en équipe que nous menons au Brésil. Bon, nous avons donc de quoi nous pencher, ne serait-ce que brièvement, sur quelques cas amazoniens sur lesquels nous en savons un peu plus. Mais je voudrais ajouter un mot d'avertissement qu'on ne répétera jamais assez. Qui est celui-ci. Les recoupements d'usages et d'idées que l'on pourrait identifier dans ce que anciennement on appelait cette ère culturelle, n'est-ce pas ? Tous ces recoupements, toutes ces généralisations ne feront jamais justice à la variété des régimes de savoir. Donc on ne saurait étendre arbitrairement ces caractéristiques d'une société à une autre, ou même d'une époque à une autre. Tout régime de savoir exige une recherche particularisée. Et donc les généralisations dans lesquelles je vais m'aventurer sont donc à manier avec précaution. Ceci dit, ce qui frappe d'emblée chez la plupart des sociétés indiennes de l'Amazonie est qu'elles ne revendiquent aucune invention propre, aucun savoir d'origine endogène. Les savoirs, quasiment par définition, sont d'origine étrangère, acquis des esprits ou des voisins. Et les schémas les plus courants de ces mythes d'origine, si vous voulez, rendent compte de ces acquisitions par toute une panoplie de moyens. Par exemple, communication chamanique ou verbale, alliance temporaire, c'est une sorte de stage marital ou amoureux, n'est-ce pas, qu'on raconte, que des jeunes gens passent en général, en tant que gendre chez des peuples, par exemple, subaquatiques, c'est le schéma Achuar et aussi Runa, n'est-ce pas, les Quechua. soit aussi par la ruse, par la guerre, enfin, par tout un ensemble de moyens. N'est-ce pas ? Et c'est paradoxal parce que dans ces sociétés où la terre n'est pas passible d'appropriation privée, n'est-ce pas, les rituels et les chants, en revanche, peuvent être entendus comme des butins de guerre. C'est le cas d'ailleurs chez les sociétés de langue G du Brésil central, qui ont pour usage de rappeler ses origines de chants, de rituels, etc., aussi lointaines et douteuses qu'elles soient, elles sont toujours rappelées. Autre exemple, les plantes cultivées et leurs techniques de base en tout cas, sont elles aussi obtenues de personnages mythiques, parfois, mais pas toujours, de leur plein gré d'ailleurs. Par exemple, chez les Jaminawa, un vieillard avare se refuse à les communiquer. Par ailleurs, chez les Gé encore, le mythe de la femme étoile est très répandu, et c'est cette femme étoile qui non seulement apporte les semences aux hommes, mais leur apprend à les cultiver. Donc, les plantes cultivées et leurs techniques sont elles aussi d'origine toujours étrangère. Le feu, n'en parlons pas, c'est le thème de plusieurs volumes des mythologiques. Le feu est volé, n'est-ce pas ? Du jaguar, des vautours, etc. Les motifs graphiques pour le tissage de plusieurs peuples de langue pano, comme les Kashinawa, ces motifs sont la propriété des femmes, ils sont très importants et sont appelés kené en général, et on les a eux aussi obtenus du dehors par l'intermède d'un boa qui les avait sur le dos, donc il y avait tous ces motifs sur le dos, et qui séduit une femme et lui repasse donc ses dessins, ses motifs. Il est curieux que, apparemment, la chasse et son équivalent, la guerre, n'est-ce pas, fassent exception. À ma connaissance, du moins, je peux me tromper, les savoirs guerriers et cynégétiques ne font l'objet d'aucune exégèse mythique ou d'aucun mythe d'origine. Ils vont en quelque sorte de soi, ce qui renforce d'ailleurs mon intuition dont je vous ai parlé la semaine dernière, qu'il serait en Amazonie, que la chasse, n'est-ce pas, la chasse, la guerre, serait en Amazonie le modèle, c'est-à-dire le schéma de base de tous les autres savoirs. Alors, dans le même sens, et là, je me risque encore plus loin, les théories de l'apprentissage de plusieurs peuples amazoniens insistent sur les procédures d'imitation. Vous vous souvenez peut-être que c'est là le fondement même de la chasse, des techniques de chasse des Awaguaja du Maranhão, n'est-ce pas ? C'est une technique que Andrea Gutierrez Choquevilca a récemment appelée la chasse au leurre. C'est une très bonne formule, n'est-ce pas ? Et cette technique a une diffusion assez large. On la retrouve à l'honneur, par exemple, chez les gens que cet anthropologue chez qui il a travaillé, c'est-à-dire les Quechua amazoniens. Donc, le thème de l'imitation est central dans les techniques de chasse. Pour leur part, les discours chamaniques, dont d'ailleurs le journal de la Société des Américanistes vient de nous fournir un excellent dossier organisé par Pierre Deléage, cela a été publié il y a un an, les discours chamaniques, on l'a abondamment remarqué, s'entendent comme des discours rapportés, mais non pas ce qu'on appelle les discours rapportés indirects libres, mais bien au contraire, il s'agit de rapporter les propres mots des esprits. C'est-à-dire que le chaman est supposé les citer verbatim. D'ailleurs, ces esprits peuvent eux aussi citer à leur tour, et les citations s'enchâssent les unes dans les autres, à la façon de poupées russes, si vous voulez, ou en abîme, comme les a appelés Viveiros de Castro, Cesarino et bien d'autres. D'ailleurs, une façon chez les marubos d'appeler les chamans, eh bien, ceux qui citent les paroles des esprits. Donc, vous voyez l'importance de la citation et non pas du discours rapporté libre. Donc, les chamans, les chants des chamans sont conçus comme des imitations de ce que chantent les esprits. Ça n'est pas une possession, mais c'est une imitation. Et un peu partout en Amazonie, à l'instar, par exemple, des arawetés, qui sont des toupies, n'est-ce pas, qu'a étudié Viveiros de Castro, et des marubos, qu'a étudié Cesarino, n'est-ce pas, l'analogie est explicite entre les chamans et les postes de radio. Le chaman est un poste de radio. C'est l'analogie qui est toujours faite et qui est donc très courante en Amazonie. Et David Kopenawa, dont je vous ai abondamment parlé déjà, lui a une autre métaphore, mais qui est tout aussi parlante. Il dit, voilà, le chaman est couché dans son hamac, mais les cordes de son hamac sont des antennes qui captent donc, les émissions des esprits. Donc toujours cette idée du chaman comme littéralement porte-parole, n'est-ce pas, de façon... en citation, je ne vois pas d'autre façon de le dire, n'est-ce pas? Alors, pour utiliser une formule consacrée et vénérable, on pourrait dire que tout se passe comme si les arts de la civilisation de chacune de ces sociétés étaient en principe attribués à autrui. Toute culture, dans l'expression heureuse à nouveau de Eduardo Viveiros de Castro, étant entendu comme une acculturation. La culture vient toujours du dehors. Pourtant, individuellement et à l'intérieur de chacune de ces sociétés, il y a bien des rivalités. Ce sont des sociétés à faction, normalement. Et ces rivalités se fondent sur des critères d'excellence qui sont prélevés dans plusieurs domaines. Des domaines qui vont par exemple de la prouesse guerrière à la mémoire, à la bonne mémoire des chants, aux compétences thérapeutiques, aux arts de la parole et de la rhétorique, n'est-ce pas, aux techniques de construction, est-ce que je l'ai déjà mentionné, bref, à un nombre de domaines. Si nous croyons ce que racontent les chroniqueurs du XVIe siècle, pour les Tupinambas de cette époque, c'était le nombre d'ennemis assommés avec brisure de crâne, comme il fallait, n'est-ce pas, qui était le domaine de choix pour établir la renommée individuelle d'un Tupinamba, d'un grand homme Tupinamba, n'est-ce pas. Hélène Clastre a soulevé justement la question de la rivalité entre le critère du grand guerrier et le critère des prophètes, n'est-ce pas, qui, par l'art de la parole, se sont en quelque sorte érigés en rivaux de ces grands hommes guerriers des Tupinamba. Donc il y a plusieurs moyens de se constituer une renommée, un prestige, une grandeur, n'est-ce pas. Grandeur étant le terme que Cédric Ivinec, toujours dans ce numéro du journal de la Société des Américanistes, utilise pour parler des surouis de Rondônia. Ce sont des gens qui parlent une langue qu'on classe comme tupi-mondais. Ce sont des plus ou moins apparentés aux toupies, mais de loin. Donc, les surouis de Rondônia, étudiés par Cédric Ivinec, ils ont une mis l'accent d'une façon qui semble différente, disons, des autres sociétés amazoniennes. Eux, ils mettent l'accent sur l'originalité de la création de chants, qui sont tenus pour être tout à fait impromptus, inspirés, sans modèle, ce qui évidemment n'est pas toujours le cas. Il y a des canons, n'est-ce pas, qu'il faut respecter, mais l'idée est que l'originalité des chants, n'est-ce pas, qui sont d'ailleurs entonnés lors de grandes beuveries, voilà, il explique que les Surui ont un système de beuveries réciproques. Disons qu'une faction, ou un groupe si vous voulez, une faction se charge de produire énormément de bière de maïs, n'est-ce pas, plus que ses invités ne pourraient consommer. Et les invités sont mis donc au défi de consommer tout cela et de chanter, n'est-ce pas, et de chanter sous l'effet de la bière. Et ce sont les grands hommes qui vont fournir ces chants, qui vont improviser ces chants, n'est-ce pas, qui devront être à la fois adéquats et originaux. Donc ces beuveries sont, les chants sont à la fois une composante de la grandeur, mais aussi la marque qui parachève cette grandeur de certains hommes et qui, dit Cédric Ivinec, les individualise. Et il est intéressant que, comme nous l'avons vu, cette grandeur pouvant être obtenue dans d'autres domaines, par exemple, je cite Cédric Ivinec, il dit « Dès lors qu'ils impliquent un savoir, toute œuvre permet de démontrer la grandeur de la guerre à la construction de maisons. » Donc, tous ces domaines peuvent servir à construire le grand homme, mais, dit-il, cette grandeur est inséparable de la capacité d'improviser des chants sous l'effet de la bière, n'est-ce pas ? Et, comme je vous l'ai dit, la présomption d'originalité, d'une inspiration spontanée et de rigueur. Donc, cette efficacité individuante, comme il l'appelle, du chant, il montre qu'elle s'applique également aux esprits dont les chants, qui eux sont cette fois répétés à l'identique et non pas originaux, n'est-ce pas ? Ils sont répétés à l'identique par les chamans. Donc, et pourquoi sont-ils individuants ? Eh bien, parce que en fait, la réalité de ces esprits, qui n'ont pas grande fonction par ailleurs, est contenue tout entière dans ces chants. C'est la réalité même de ces esprits que les chamans expriment. Je voudrais faire une parenthèse ici. Je sais que l'usage est souvent d'utiliser chaman et non chaman. J'utilise chaman parce que, je ne sais pas pourquoi, dans ce livre que j'aime beaucoup, dont je fais la réclame tout le temps, La chute du ciel, c'est chaman qu'on utilise et je ne vois pas pourquoi on devrait utiliser chaman. Mais je reconnais que chaman est actuellement plus courant. Et alors je fais simplement une remarque qui est que lorsque chez les Surui, n'est-ce pas, cette création propre est revendiquée, n'est-ce pas, elle est censée, et ça c'est un point intéressant, elle est censée ne comporter aucun apprentissage. Au contraire, ni les chamans, ni les grands hommes, ou les hommes qui s'essayent, qui aspirent à être grands, n'est-ce pas, ne doivent s'entraîner. On prétend qu'il n'y a pas d'apprentissage et que tous ces chants doivent être d'emblée soit reçu des esprits, soit composé sous une inspiration immédiate. À tel point qu'il y a une interdiction formelle d'apprentissage. Et pour ce qui est des chamans, celui qui commencerait à regarder ailleurs et essayer d'apprendre par ailleurs, serait sous danger d'une menace mortelle de la part des esprits. Donc, il n'y a pas d'apprentissage dans ces cas-là. J'en viens maintenant au rapport du savant à son savoir, c'est-à-dire aux questions, au fond, de droits intellectuels qui vont nous occuper beaucoup à la fin de ce cours. Et j'en profite d'ailleurs pour dire que le dernier cours est bien le 7 juin et non le 14, comme parfois je sais que dans certains sites, il paraît qu'on parle du 14 juin. Non, le dernier cours où l'on parlera justement de droits intellectuels est bien le 7 juin. Mais là, je vais en parler du point de vue de ces sociétés, et donc différemment de ce qu'on va regarder lors du 7 juin. C'est-à-dire que c'est du point de vue du régime de savoir de chacune de ces sociétés qu'il faut aller s'enquérir de ce que sont, n'est-ce pas, ces droits et ces rapports entre le savant et le savoir. Et là aussi, bien sûr, il faut se garder de généraliser, puisque, je le répète encore une fois, les savoirs diffèrent entre eux et diffèrent, n'est-ce pas, selon les sociétés et les époques. Et pour essayer de les comprendre, je propose de les prendre par un biais qui peut être révélateur, et qui est celui-ci. Qu'est-il loisible de faire de son savoir, n'est-ce pas ? Bon, on peut bien sûr l'impartir librement à qui de droit, par exemple ses enfants en premier lieu, nous l'avons vu dans le Rio Negro, c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas ? Et aussi, à défaut de personnes attitrées, on peut souvent le laisser en dépôt à des tiers. On peut aussi impartir ce savoir par apprentissage et se faire rémunérer, à l'exception des surui, mais dans la plupart des cas, les apprentis chamans, n'est-ce pas, passent de longues années, n'est-ce pas, sous la tutelle, très sévère d'ailleurs, de chamans dont ils sont les apprentis. On peut aussi abandonner ce savoir, l'emporter dans la tombe, ou bien, au contraire, le transmettre à tout un chacun. Mais ce qu'il est important aussi de considérer, c'est que ces savoirs sont le plus souvent convertibles en prestige, et que donc il importe de les exhiber. Pour en revenir au surui, Cédric Ivinec dit « on fait du savoir », et il donne le mot surui kobam, « on fait du savoir moins un secret qu'on protège qu'un spectacle qu'on offre », dit-il, « et qu'on met au défi d'égaler ». Donc, le savoir est quelque chose qui s'étale, qui se montre, et qui se montre pour acquérir du prestige et pour, au fond, assommer le rival, n'est-ce pas ? Alors, il y a donc bien des droits intellectuels, n'est-ce pas ? Puisque, par exemple, j'en suis toujours chez les Souloui, les champs humains ne doivent pas être plagiés, ils ne peuvent pas être plagiés, donc ça prouve bien qu'il existe des droits intellectuels, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, chacun rappellera cet individu qui a composé ces chants au long de au moins trois générations, si évidemment le chanteur est suffisamment grand. Donc, il y a en effet droits intellectuels. Mais on est très loin de la conception de propriété et d'une fongibilité générale. On est aussi très loin du marché culturel mélanésien dans lequel certaines sociétés se spécialisent dans la production de biens culturels, si vous voulez, destinés à l'exportation. C'est-à-dire qu'il y a certaines sociétés qui sont des productrices de rituels, de chants, de biens culturels en général, qu'ils vendent, ou parfois dont ils vendent certains droits et pas tous. Donc, On est loin d'un tel marché culturel, n'est-ce pas? Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de droits intellectuels en Amazonie. Bien au contraire, ils sont surabondants. Je l'ai d'ailleurs déjà fait remarquer. Et ils s'appliquent à toutes sortes de biens intangibles, que ce soit des noms, des ornements, des récits, et j'en passe, n'est-ce pas? Et ils sont également d'une très grande complexité. Leurs détenteurs, par exemple, n'étant pas forcément ceux qui ont droit ou le devoir, d'ailleurs la distinction est ténue entre droit et devoir, donc ceux qui en sont les détenteurs ne sont pas forcément ceux qui doivent ou qui peuvent les exhiber. Il y a un exemple qui est très connu chez les Bororo. Quand le rituel pour un mort d'une moitié de cette société, d'un village en fait, ce rituel qui est détenu donc par la parenté du mort ou par le clan du mort, ce rituel ne peut être et ne doit être réalisé que par la moitié adverse, si vous voulez. Donc une moitié est propriétaire, si vous voulez, de ces rituels, mais c'est l'autre moitié qui la mettra en scène. Et les rôles ne peuvent pas être intervertis. On ne peut pas mettre en scène son propre rituel, en quelque sorte. Et ainsi, le droit à la performance ne figure pas nécessairement parmi les droits intellectuels des détenteurs. Vous voyez l'extrême complication qui est impliquée là-dedans. De même, par exemple, un chant chamanique est le plus souvent conçu comme appartenant à un esprit particulier et non pas au chaman qui le détient et qui en détient le savoir et qui l'entonne. Donc c'est à la fois l'idée éventuellement de quelque chose approchant la propriété est en fait démembrée en plusieurs droits différents. L'anthropologue brésilien Carlos Fausto a très finement étudié, et d'ailleurs suivant en cela une piste donnée par l'anthropologue américain Tony Seeger, qui a travaillé au Brésil, il a étudié donc une catégorie de ce que les Amazoniens brésiliens désignent en général par le mot dono, qui peut être glosé, c'est un mot en portugais, qui peut être glosé comme propriétaire, maître, détenteur, initiateur, patron même à la rigueur. C'est une catégorie omniprésente, comme il l'a montré, mais qui exige du discernement pour être bien comprise. Et elle a bien évidemment des implications sur les droits intellectuels en général. Bon, sans entrer dans d'autres aspects d'un article très riche et très suggestif de Carlos Forst, on peut s'en tenir à la conclusion qu'il avance. Et c'est une conclusion dans laquelle il souligne que cette notion de maîtrise, toute centrale qu'elle soit, n'implique pas nécessairement la domination et la propriété privée. Donc, à nouveau, on retrouve ici cette distinction entre un régime de propriété intellectuelle, qui ne s'applique pas de façon évidente, n'est-ce pas, et ces régimes de savoir qui ont toutes ces nuances et ces particularités. Et dans un opuscule qui a été traduit en français, j'ai épilogué sur la méprise qui consiste à concevoir justement les savoirs traditionnels comme foncièrement collectifs. C'est une méprise qui vient d'une sorte de mauvaise conscience occidentale qui se reproche cet excès de propriété et qui impute aux sociétés indiennes une collectivisation qui n'existe pas nécessairement et qui, en fait, comme je viens de vous le montrer, n'existe certainement pas chez les peuples d'Amazonie. Ce ne sont pas des biens matériels, mais ce sont des biens intangibles. N'empêche que ces droits existent et sont affectés à des sous-groupes de la société, sinon à des individus. Vous voyez que savoirs traditionnels et les droits qui leur sont attachés sont très finement alloués et que, d'ailleurs, on est très pointilleux à ce sujet. Donc, je n'en dirai pas plus ici, j'en ai suffisamment parlé dans cette autre publication. Je voudrais vous parler brièvement maintenant sur la question de la mémoire et de la tradition orale. David Kopenawa, dans ce livre, dit plusieurs fois une phrase qui approche à peu près de la pensée, quelque chose comme « la pensée des Blancs est pleine d'oubli », dit-il. Et il épilogue longuement sur les formes de la mémoire, n'est-ce pas ? Il continue en expliquant que les Blancs utilisent les pots de papier. Les pots de papier seraient des livres, n'est-ce pas ? Où les enfants ont bien du mal à apprendre à dessiner, c'est-à-dire apprendre à écrire, n'est-ce pas ? Alors, et je vais vous lire un extrait qui en dit long. Voilà ce que dit David Kopenawa à propos justement de la mémoire Yanomami. Il dit « Les paroles des Chapiri sont aussi innombrables qu'ils le sont eux-mêmes. » Chapiri, je vous le rappelle, sont donc ces esprits que le chaman fait venir à lui et qu'il installe dans une maison qui est suspendue au ciel. Un ciel qui est limité, n'est-ce pas ? Donc, les paroles des Chapiri sont aussi innombrables qu'ils le sont eux-mêmes et nous les transmettons depuis qu'Omama, Omama étant le créateur, a créé les habitants de la forêt. Autrefois, dit-il, ce sont mes pères et mes grands-pères qui les possédaient. Je les ai écoutés durant toute mon enfance et aujourd'hui, devenu chaman, c'est à mon tour de les faire grandir en moi. Plus tard, je les donnerai à mes fils, s'ils le veulent. Il est très sceptique sur ses enfants qui ne veulent qu'apprendre à lire et à écrire, n'est-ce pas ? Je les donnerai à mes fils s'ils le veulent, et ils continueront de la même façon après ma mort. Les paroles des Chapiri ne cessent ainsi de se rénover et ne peuvent être oubliées. Elles ne font qu'augmenter de chaman en chaman. Leur histoire n'a pas de fin. Nous suivons aujourd'hui ce que Omama a enseigné à nos ancêtres au premier temps. Ces paroles et celles des esprits qu'il nous a laissés demeurent à nos côtés. Elles viennent d'une époque très reculée, mais ne meurent pas. Au contraire, elles s'accroissent et se fixent les unes après les autres à l'intérieur de nous. Et ainsi, nous n'avons nul besoin de les dessiner pour nous en souvenir. Leur papier, c'est notre pensée, devenue depuis des temps très anciens, aussi longue qu'un grand livre interminable. Alors, cette idée... Je trouve ce passage assez beau. C'est l'idée, au fond, de la puissance de la mémoire. Cette puissance de la mémoire, on a beaucoup écrit à ce sujet, sur les traditions orales, et peut-être un des livres les plus intéressants sur ce sujet est le livre d'une historienne, Frances Yates, qui est déjà ancien, des années 60, je crois, et qui est un livre qui parle de l'art de la mémoire des anciens, n'est-ce pas ? Les anciens politiciens ou simplement patriciens, n'est-ce pas ? Avaient à discourir longuement, pensez à Cicéron par exemple, et le faisaient d'une façon orale. Comment se souvenaient-ils d'un discours aussi long ? Eh bien, il y avait des techniques de mémoire qui avaient été mises au point. C'est d'ailleurs très intéressant, je vous le recommande. Mais tout cela met en lumière, l'importance de la mémoire et de ces techniques, n'est-ce pas ? Et de la césure que l'écriture imprime, n'est-ce pas ? La mémorisation. Vous voyez que Kopenawa insiste beaucoup sur le manque de mémoire des Blancs, n'est-ce pas ? Parce qu'ils consignent tout sur papier, ils ne se souviennent de rien. À cet égard, je me souviens d'une chose qui m'a beaucoup frappée. Il y a beaucoup d'années, j'étais au Nigeria et je suis allée avec des amis rendre visite à un devin. Vous savez peut-être que le système de divination yoruba est une géomancie où on jette des kaoris et selon qu'ils sont convexes ou concaves, si vous voulez, selon la façon dont ils tombent, il y a une configuration sur les 256 possibles, puisque ce sont 8 kaoris, et le devin est censé commencer à réciter et il récitera pendant des jours et des jours tous les couplets qui sont associés à cette figure spécifique qui est apparue dans la géomancie. Donc, c'est au consultant de l'arrêter en lui disant « Ah, c'est moi, n'est-ce pas ? Voilà, c'est mon cas. » Donc, si le consultant, n'est-ce pas, ne l'arrête pas, cette séance peut durer des jours et des jours parce que Ifa est l'orisha, le maître, si vous voulez, de la divination, et le devin, tout ce que le devin doit savoir, ce sont justement ces longues énumérations de couplets relatifs à chacune de ces 256 configurations. Vous voyez qu'il faut un effort de mémoire absolument colossal. Eh bien, quand nous avons visité ce devin, il nous a expliqué qu'il avait plusieurs enfants et qu'il essayait d'entraîner un de ses enfants qu'il voulait qu'il lui succède, à devenir un devin lui aussi. Et que pour ce faire, il lui avait interdit d'aller à l'école, parce qu'il ne fallait surtout pas qu'il apprenne à lire et à écrire, puisque lire et écrire était la plus sûre façon d'éliminer toutes ses capacités de mémorisation. Donc, cette opposition, en quelque sorte, entre la mémoire orale et l'écriture. Et c'est ce que, à nouveau, David Kopenawa est en train d'affirmer, n'est-ce pas ? Je voudrais finalement vous parler un peu de l'importance des régimes. Et pourquoi la question des régimes de savoir est-elle importante pour la conservation des savoirs autochtones ? Dans la leçon inaugurale, j'ai insisté sur le caractère dynamique et vivant des savoirs autochtones et sur une de ses conséquences. Il ne suffit pas de ramasser, de thésauriser, n'est-ce pas, au moyen de techniques de mémorisation plus efficaces que la mémoire orale, n'est-ce pas ? Il ne suffit pas de recueillir donc ces connaissances acquises par les peuples autochtones et d'en établir des bases de données. Car si, comme je le pense, c'était le thème d'ailleurs d'une bonne partie de la leçon inaugurale, si, comme je le pense, il est important de conserver en état de production ces systèmes de savoir traditionnels, il est essentiel de considérer leur régime de fonctionnement. On ne peut abstraire, c'est ça le point essentiel, on ne peut abstraire, lorsqu'on a affaire à des savoirs autochtones, d'une part la substance ou le contenu de ces savoirs, d'autre part des régimes qui les ordonnent. Et on a trop souvent tendance à l'oublier. C'est là d'ailleurs une des raisons pour lesquelles sombrent des projets fort bien intentionnés. Et je vais vous en donner quelques exemples. Sur la région qui en général est dite le Haut Rio Negro, en particulier sur le Vaupés et le Issan, des écoles d'un nouveau genre, respectueuses des traditions des peuples de la région et dirigées d'ailleurs par des professeurs et des directeurs indiens, ces écoles ont été mises en route depuis plus d'une décennie. Mais dès 2004, des Un dilemme s'est présenté dans l'une de ces écoles, et je pense que le dilemme doit être beaucoup plus général. Il faut comprendre, ainsi que je l'ai expliqué justement dans cette leçon inaugurale, que les histoires qui sont les biens principaux, les grands savoirs, n'est-ce pas, des différents clans et des différentes ethnies, ces histoires qui contiennent des incantations et bien d'autres biens intangibles, eh bien, ces histoires doivent être transmises de père à fils ou éventuellement de grand-père à petit-fils, grand-père paternel, n'est-ce pas, à petit-fils. Et ce, à l'intérieur de la maison et suivant une certaine étiquette, n'est-ce pas. Sans mettre en doute ces droits exclusifs de chaque clan, le directeur indien de l'école considérait, lui, très urgent d'apprendre aux enfants tous ces biens intangibles qu'il tenait pour un patrimoine culturel en péril. Et il faisait valoir que les vieillards disparaissaient et qu'avec eux, tout un répertoire qui était justement consigné à leur seule mémoire était perdu sans retour. D'autant plus que toute la génération intermédiaire avait été contaminée par les Salésiens qui, eux, n'avaient aucun intérêt à perpétuer ces histoires. Donc, ce directeur, fort bien intentionné, lui-même indien, soucieux du patrimoine culturel, disait « il faut que tous ces vieillards viennent à l'école et apprennent aux enfants les histoires de leur clan ». Et ce, donc, indépendamment des clans. Bon, inutile de vous dire que les vieillards ont refusé tout net, n'est-ce pas ? Et puis, se sont en suivi de longues palabres et qui ont abouti à un compromis intéressant, assez curieux. Les vieillards ont finalement accepté d'enseigner des histoires claniques, n'est-ce pas ? Qui sont, à tout élève qui le leur demanderait dans les formes. Et ce, non pas à l'école, mais à l'intérieur de leur maison. En d'autres termes, ils gardaient ainsi une certaine autorité, n'est-ce pas, une autorité manifeste. Je vous ai aussi parlé, d'ailleurs, de cette collection de livres qui est de la même région. Et un accommodement du même type paraît s'être établi de façon plus ou moins tacite, justement à propos de ces livres, de cette collection de livres de mythes et d'histoires. Par exemple, l'auteur d'un de ces livres, n'est-ce pas, qui avait dicté à son fils, qui était lui capable de lire et écrire, il avait dicté son histoire clanique, n'est-ce pas. Le fils était donc son scribe et avait produit le manuscrit qui, finalement, avait été publié. Or, ce qui est assez curieux et intéressant, c'est que le vieillard se félicitait, n'est-ce pas, non pas que le livre ait été publié, mais que, à cause du livre, il ait pu instruire son fils, n'est-ce pas, dans les histoires qu'il lui incombait, en fait. Tout cela, n'est-ce pas, montre que dans les deux cas, n'est-ce pas, il semblerait que bien davantage que de perpétuer leur mémoire, la mémoire de ces histoires en tout cas, l'important était la mémoire des règles elles-mêmes, n'est-ce pas, l'autorité que ces vieillards entendaient conserver sur les histoires et sur la légitimité de l'autorité qu'ils transmettaient à leurs enfants, c'est-à-dire à qui de droit. Donc, la manière de transmettre les savoirs est au moins aussi importante, sinon plus, que leur substance. Et l'effondrement d'autorité, des règles d'autorité de transmission des savoirs, aussi grave, sinon plus, que leur oubli. Il s'ensuit donc, si tant est qu'il faille le redire, que les bases de données consignant tout ce qui peut l'être ne peuvent couvrir qu'un petit pan de ce qui constitue un système de savoir autochtone. Certes, les bases de données sont envisagées en tant qu'instrument de défense contre la piraterie des savoirs, dans la mesure où elles peuvent être utilisées pour attester, n'est-ce pas, des savoirs préalables chez des populations autochtones. Mais elles sont loin de suffire à conserver les systèmes en tant que tels. Les savoirs sont donc à considérer en bloc, et ce doublement. Tout d'abord, on l'a vu, le régime de savoir n'est pas dissociable des contenus qu'il véhicule. Mais les savoirs eux-mêmes peuvent difficilement être répartis en des domaines strictement séparés. Or, c'est bien ce qui leur arrive de par la demande externe. Certains vont chercher chez eux des enseignements spirituels, sinon ésotériques, voire une sagesse, tandis que d'autres, les biologistes surtout, ne prélèvent que des connaissances isolées du système qui les a produites. Et dans un cas comme un autre, on morcelle les savoirs et surtout, on les prélève hors contexte. Les régimes de savoir, je l'ai suffisamment fait remarquer, sont historiques et sujets à modification. Je viens d'en exhiber certains accommodements. Et déjà, notre régime à nous de propriété intellectuelle a eu pour effet, j'en ai déjà parlé, la transformation de domaines tout à fait exotériques, n'est-ce pas, journaliers et pour ainsi dire profanes, en savoirs ésotériques réservés et mis à part. Mais si nous voulons conserver les systèmes de savoir autochtones, en fonctionnement donc, il faudra faire l'effort d'en comprendre les régimes pour ne pas leur imposer, par ignorance de notre part, plus de tensions qu'ils n'en sauraient supporter. Voilà. Merci beaucoup.